Cette conférence va maintenant être enregistrée.
Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette première, toute première balado-diffusion de Reco-Québec. Je m'appelle Alexis Beauchamp, je suis membre du conseil d'administration de Reco-Québec. C'est avec plaisir que je serai votre animateur aujourd'hui. Alors, nous sommes très heureux à Reco-Québec de recevoir deux invités pour cette première balado, soit Guillaume Laberge et Josiane Simon, que je vais vous présenter dans quelques instants. Ils vont être avec nous pour discuter du retour au travail, du déconfinement, plusieurs mots, là, de la reprise progressive des activités économiques là, qui commence à prendre forme pour les entreprises et les organisations dans le contexte de la COVID-19. Donc, laissez-moi vous présenter brièvement nos deux experts avant qu'on lance la discussion. Guillaume Laberge est à l'emploi de IA Groupe Financier depuis janvier 2004 et il a travaillé de près de 14 ans dans les technologies de l'information, entre autres dans les activités de plan de relève technologique et d'intégration de nouvelles solutions. Depuis 2018, il est responsable de la pratique de continuité des activités pour l'ensemble des activités de son organisation en Amérique du Nord et aussi comme coordonnateur du comité corporatif de gestion de crise. Alors, bienvenue Guillaume.
Merci.
De son côté, Josiane Simon est vice-présidente du service conseil en risque chez BDO. Josiane œuvre depuis 1998 dans le domaine de la gestion des risques, des urgences et de la continuité des affaires. Au cours de sa carrière, elle a accompagné plus d'une quarantaine d'organisations privées et publiques dans des secteurs très variés, dont gouvernemental, financier, services, alimentaires, pharmaceutiques et j'en passe. Josiane détient une maîtrise en gestion de l'environnement spécialisée en gestion des risques de l'Université de Sherbrooke et plusieurs autres certifications et accréditations du domaine de la gestion des risques et de la continuité des opérations. Alors, bienvenue également, Josiane.
Bonjour.
Petit mot avant de passer la parole à nos invités. Il est important donc de se rappeler qu'aujourd'hui, les trois intervenants, moi y compris, on s'exprime donc pas officiellement au nom de la position officielle de notre entreprise. Moi, dans mon cas, je suis conseiller en stratégie et en continuité des affaires à l'Auto-Québec. Or, aujourd'hui, je ne prendrai pas la parole au nom de l'Auto-Québec, mais vraiment comme membre co. Et tout comme Guillaume et Josiane, ils vont s'exprimer plus à titre d'experts en continuité. Donc, maintenant, cet élément est clair. Je me tourne pour mettre la table à la discussion. Donc, Josiane, Guillaume, au cours des derniers jours, le gouvernement québécois a annoncé diverses mesures de déconfinement progressif, notamment la réouverture des écoles primaires et des garderies, le retour au travail dans plusieurs secteurs. Là, pour l'instant, on parle de la construction, de l'industrie manufacturière, le commerce de détail, d'autres phases qui vont venir. Mais donc, tout d'abord, je commencerai par vous demander, peut-être Guillaume, quelle est votre réaction là, par rapport aux annonces des derniers jours, plus particulièrement, je dirais, sur la reprise progressive des activités économiques?
Ben, c'est sûr que de notre côté, en tant qu'organisation, on faisait partie des services essentiels. Donc, pour nous, puis c'est probablement la même situation pour bien les entreprises au Québec du secteur financier, c'est qu'on se retrouve dans un mode où ce que on a des gens qui sont présentement à la maison, qui sont en télétravail, dont les conjoints, entre autres, vont peut-être réintégrer le travail. Et là, il y a tout le contexte familial, le contexte, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants. On sait qu'ils ne réouvriront pas tout de suite les écoles secondaires, donc il y a une priorisation au niveau des services de garde et des écoles primaires. Et puis, je crois qu'en termes de continuité pour les entreprises, présentement, c'est vraiment le challenge. Comment gérer, non, pas seulement le fait que les gens se retrouvent au travail et soient... qu'il y ait une proximité, donc qu'il soit le challenge de conserver quand même la distanciation sociale et de réintégrer le lieu de travail versus la capacité réelle de nos employés ou des employés en général de pouvoir réintégrer le milieu de travail pour des raisons qui soient de nature familiale ou quoi, qui soient même de nature, je pourrais dire ça, soit de nature personnelle, parce que c'est pas vrai de penser que tous les gens sont prêts à réintégrer le travail, parce que, par exemple, il y a des gens qui vont décider de ne pas renvoyer leurs enfants à la garderie pour l'instant, parce qu'on a vu un peu moi, ça me touche directement, j'ai deux enfants en bas âge, les restrictions qui vont être mises en place du côté des garderies, certains parents vont être en droit de se demander, est-ce que je veux vraiment envoyer mon enfant dans un contexte comme ça, et comment les employeurs vont devoir gérer cet élément-là avec leurs employés parce que j'ai des collaborateurs de notre côté au niveau des ressources humaines. La loi par rapport au droit de refus, les réglementations par rapport à ça pourraient venir, dans le fond, affecter les entreprises directement parce que ils ne pourront pas obliger leurs employés à revenir au travail. Fait que malgré le fait qu'on permet aux gens de retourner au travail, ce n'est pas nécessairement tous les gens qui vont pouvoir revenir au travail.
Oui,
Non, effectivement, c'est. Oui,
je suis bien
allez-y,
d'accord
Josiane.
avec Guillaume. Je suis bien d'accord avec Guillaume. Je pense que ça va être un fin équilibre entre la gestion des préoccupations qui sont issues de la peur, hein. Évidemment, les gens peut-être peuvent ressentir de la peur à sortir de chez eux et se promener dans le monde. La conciliation famille-travail, l'utilisation des transports en commun, etc., la peur d'être contaminé puis de contaminer ses proches. Puis l'équilibre à l'autre aspect pour lequel il va falloir avoir un équilibre, c'est pour la poursuite des opérations. Comment on va être capable de gérer les préoccupations tout en maintenant un certain niveau d'opération dans les diverses organisations qui vont reprendre. Puis ça, c'est vraiment un jeu d'équilibre que les équipes de direction des diverses organisations vont devoir toujours avoir en tête dans la prise de décision là, pour les prochaines semaines.
Tout à fait, c'est pas évident, effectivement, de trouver cet équilibre-là, de négocier, là, finalement, face à tous ces facteurs-là. Mais si je vous posais la question autrement, là, pour une organisation ou les organisations qui réfléchissent déjà actuellement à cet éventuel retour, là, disons, pour celles peut-être qui n'ont pas reçu le feu vert encore, notamment des activités qui sont plus de bureaux, on commence par quoi, quand on veut planifier ce déconfinement ou ce retour au bureau-là, disons, parce qu'il y en a plusieurs qui sont en télétravail actuellement. Par quoi est-ce qu'on doit commencer? Est-ce qu'on doit identifier, est-ce qu'on commence par exemple par les activités critiques, c'est celles-là sur lesquelles on table en premier, par celles qui ne se font pas à distance, par les activités qui peuvent se faire en respectant les directives de la santé publique. Comment vous voyez ça?
Moi, je verrais ça vraiment dans la façon, parce que la première priorité, ça doit être le maintien d'un milieu de travail sain et sécuritaire. Donc, avec ça en toile de fond, puis la gestion des préoccupations des personnes, c'est là qu'on va être capable de voir. Oui, il y a des activités critiques qui doivent être maintenues pour avoir un seuil de performance minimal pour les organisations, mais comment il y a peut-être des activités critiques pour lesquelles il va falloir trouver d'autres processus pour les livrer tout en respectant les règles relatives à la santé publique, parce que la priorité, ça doit être le maintien d'un milieu de travail sain et sécuritaire. Plusieurs des organisations, ce qu'elles ont fait pour celles qui ont pu poursuivre parce qu'elles étaient essentielles, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont revu, qu'ils ont mis en place une série de mesures préventives pour maintenir un milieu de travail sain et sécuritaire. Puis ils ont fait une genre de veille par rapport aux différentes mesures qui étaient sorties dans les différents niveaux de gouvernement, que ce soit au fédéral, au provincial, ou même au régional, puis même à l'OMS, puis même dans les organisations paritaires, pour s'assurer qu'ils avaient identifié l'ensemble des mesures de prévention, puis en fonction des types de tâches qui pourraient être à faire, si c'est à l'extérieur, si c'est en bureau, si c'est en usine, c'est de s'assurer que l'ensemble des éléments de base là, par rapport à la prévention de la propagation du virus soit en place. Puis je pense que c'est ça la priorité. Puis ensuite, en deuxième priorité, c'est vraiment le maintien de la performance de l'organisation et de là, le maintien des activités critiques. Donc, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois.
Je suis entièrement d'accord avec Josiane du côté de l'importance de protéger le milieu de travail. Puis il faut le voir de deux façons. Tu sais, il y a probablement peut-être des organisations qui opèrent, qui ont déjà des gens qui sont en retour de travail pour différentes raisons, surtout les entreprises qui pouvaient se le permettre dans le sens qui faisait partie de la liste des entreprises autorisées à continuer à opérer, même si les entreprises ont pu mettre potentiellement une grosse quantité de gens en télétravail. Il reste qu'il y a des entreprises qui vivent des challenges par rapport au fait qu'ils ont des activités critiques qui nécessitent d'être sur le lieu de travail. Fait, Il y a effectivement tout l'aspect de protéger l'environnement de travail pour protéger les employés. Fait que je me dis que pour les plus petites entreprises ou les différents niveaux d'entreprise, je pense que la priorité, c'est de regarder le lieu de travail et en fonction des recommandations ou de la réglementation que le gouvernement a mis à l'avant, s'assurer de se mettre en action rapidement là-dessus parce qu'on sait qu'il y a peut-être des entreprises qui vont devoir modifier le lieu de travail directement pour essayer de limiter au minimum, dans le fond, les risques de propagation, que ce soit la gestion des points de contact, que ce soit, ça va jusqu'au distributeur à papier pour pas nécessairement qu'il soit automatisé, mais qu'il y ait le moins de contact possible, puis de voir aussi cet environnement de travail-là pour respecter la distanciation, parce qu'on s'entend, des locaux, pour bien des entreprises, c'est pas des choses qui sont élastiques. On ne peut pas agrandir et rapetisser le lieu de travail comme on le voudrait nécessairement. Puis la nature du travail fait que des fois, la proximité est pratiquement obligatoire. Moi, je pense que c'est important que les entreprises, dans la façon dont ils réintègrent leur lieu de travail, gardent en tête le fait que le risque demeure le même. Donc, il faut pas qu'on oublie que le risque de contagion ou que des employés attrapent la COVID est toujours présent et qu'ils doivent quand même mettre en place des stratégies dans le retour au travail pour assurer une forme de continuité des activités critiques. Que ce soit comme par exemple dire, ben, nous, comme entreprise, on va accepter peut-être une diminution de la qualité de notre service pour s'assurer que si jamais, par exemple, on a un cas avéré à l'intérieur de nos bureaux, puis je pense qu'on est tous conscients qu'est-ce que ça implique d'avoir un cas avéré au bureau. Parce que c'est quelque chose qui a été communiqué très tôt dans la crise, de dire, ben, je dois me garder du staff en backup, je dois me garder du staff qui n'est pas directement en lien avec mon staff opérationnel, appelons ça une équipe A, une équipe B, pour s'assurer que si jamais le lieu de travail devient contaminé, parce qu'on sait que ces gens-là vont être mis en quarantaine parce qu'ils ont fréquenté un lieu de travail, puis même avec la distanciation sociale, le risque est le même, ben, de retirer ces gens-là de décontaminer le lieu de travail et de réintégrer une deuxième entreprise parce que je pense qu'il n'y a aucune entreprise qui veut réintégrer le bureau, travailler 2 semaines, puis être obligée de refermer pour 2 semaines parce qu'ils n'ont pas mis en place des mesures qui non seulement vont protéger leurs employés, mais aussi vont s'assurer qu'eux vont avoir une forme de continuité si jamais les employés affectés à ces tâches-là ou à ces activités critiques-là puissent reprendre du travail puis assurer la continuité si jamais ces gens-là ne sont plus disponibles.
Donc, je suis entièrement d'accord. Il y a deux volets, ben, il y a plusieurs volets. Il y a le volet de la mise en place des mesures de prévention pour éviter la contamination des employés. Ensuite, il y a l'identification des activités critiques, puis des moyens, des processus à changer en fonction des règles de la santé publique, mais aussi quelque chose que plusieurs entreprises doivent faire, puis pas penser que c'est quelque chose qui va se faire automatiquement. Mais dès qu'il y a un employé qui ressent des symptômes, qu'il soit à la maison ou sur les lieux du travail, il faudrait qu'ils aient une procédure très claire et très simple et pour réagir rapidement afin de limiter la propagation du virus au sein des autres employés qui font partie de la même équipe. On a parlé du groupe A et du groupe B. Et aussi, donc pour limiter la propagation, mais aussi pour favoriser la poursuite des activités, pour faire le switch rapide de l'équipe A à B. Par rapport à ça. Puis il y a une série d'actions à prendre, puis des fois les gens vont dire oh, bon, on va changer les équipes, etc. Mais c'est important à la vitesse à laquelle ça doit être fait, puis en même temps avec la série d'actions qui doivent être posées pour s'assurer que tous les objectifs sont rencontrés, il est vraiment important de mettre ça dans une procédure, je pense, pour les organisations.
Ah oui, ça, c'est tellement important on parle tout le temps du plan de continuité comme étant l'élément central de tout ça, mais c'est super important que les entreprises se dotent de procédures très rapidement mises en place, quitte à les tester, parce que dans certains cas, ça va impliquer des fournisseurs externes. Je m'attends que les fournisseurs, les spécialisés en décontamination, en gestion de ménage, ces gens-là vont, sans dire, vont faire des affaires d'or, mais vont être appelés à intervenir souvent. Puis il faut s'assurer d'avoir pas juste un plan A, un plan B, un plan C, d'avoir plusieurs fournisseurs disponibles, qu'on est prêt à engager rapidement, parce que faut pas s'attendre que parce que l'entreprise a un besoin dans l'immédiat que ce besoin-là pourra être comblé par un fournisseur externe, parce qu'on c'est des services qui vont être très sollicités. Donc, il faut vraiment que ce plan-là soit préparé de manière exhaustive, puis qu'il soit dans la limite du possible, je dirais même jusqu'à être testé de manière très 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 très, très directe, pour voir ça tient-tu la route, parce que on l'a vécu très tôt dans la crise de la COVID. Tu sais, le spectre du premier cas avéré dans les entreprises, puis probablement que différentes entreprises ont vécu de différentes façons. À partir du moment où tu as le doute qui plane sur le fait que tu as un employé qui a fréquenté le lieu de travail, a été potentiellement un cas positif, le stress et les opérations qui sont en lien avec ça, peu importe, je pense, la grosseur dans l'entreprise, la procédure est à haut niveau est la même, mais c'est un moment qui c'est drôle à dire, c'est un moment qui est stressant pour les gens qui sont impliqués directement dans la gestion de tout ça.
Tout à fait. Oui, en fait, c'est pas, comme tu dis, c'est drôle à dire, c'est tout à fait compréhensible. Dans la situation actuelle, on sent vraiment là, un stress ambiant, une anxiété, on pourrait dire. Si je faisais du pouce là-dessus, comment voyez-vous ça? Là, parce qu'on s'entend que il y a des, comme vous disiez tout à l'heure, Guillaume, au niveau des employés, des fois c'est pour des raisons de conciliation travail-famille, des fois ça va être un refus de venir travailler ou à tout le moins une hésitation importante selon les mesures concrètes que les organisations auront prises pour assurer la sécurité de leurs employés. Mais cet aspect-là de ressources humaines, là, comment on fait finalement pour rassurer nos employés, pour bien faire les choses aussi dans le premier lieu, mais aussi pour s'assurer là, que nos employés vont revenir travailler pour que on puisse reprendre nos activités, pas comme avant, mais en tout cas dans un certain sens de normalité vers un retour au travail de plus en plus normal. Comment les organisations pourraient s'y reprendre?
Je te laisse y aller, Josiane.
Ben, comme tu veux. Je pense qu'on va probablement dire des choses similaires. Donc, je pense que la communication, c'est à la base de tout. Donc, les rumeurs, les médias sociaux au sein des employés, tout ça, c'est dans les situations comme actuellement, ça se répand super rapidement. Donc, il est très important que l'organisation, la direction se place comme étant la référence pour la communication aux employés, puis la communication transparente, véridique. Et dans la communication, c'est de dire, OK, oui, il y a eu un cas, voici ce que nous avons fait, puis voici comment vous devez adapter votre comportement par rapport à ce cas-là. Que ce soit très clair, puis que les canaux de communication, que ce ne soit pas improvisé, là, que ce soit le flot d'informations, les flux d'informations dans l'organisation doivent être très huilé de façon à faire en sorte que les employés soient bien maintenus au courant. Il y a divers avenues qui peuvent être employées par les divers employeurs, que ce soit les réseaux sociaux internes, que ce soit des courriels, que ce soit l'intranet, que ce soit dans les rencontres périodiques qu'il faudrait tenir plus souvent, notamment avec les employés, même s'ils sont à distance. Dans les rencontres périodiques, faire le point sur ce qui a été fait et qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, puis comment les gens peuvent contribuer vraiment à améliorer la situation, puis aussi être à l'écoute des préoccupations des employés de façon à les ramener à l'équipe de direction pour qu'elle puisse être alimentée par rapport aux enjeux qu'elle pourrait avoir à traiter par rapport aux préoccupations que les employés pourraient avoir.
Je ne pourrais absolument rien rajouter à cette affirmation qui est toute somme toute parfaite, parce que la réalité, c'est plus on communique avec nos employés, puis je dirais que je pense qu'un des importants, c'est que cette communication-là vienne vraiment du plus haut niveau possible, parce que c'est tout dépendant du format d'entreprise. Les plus petites entreprises, évidemment, c'est souvent plus, on pourrait dire, quasiment familial. Quand on tombe dans des plus grosses, des entreprises de grand format avec des milliers d'employés, il ne faut absolument pas négliger le pouvoir du CEO. C'est quelque chose que moi j'ai vu dans notre organisation puis dans d'autres organisations, c'est le rapprochement du président, du CEO, des employés, que ce soit par des allocutions, que ce soit par moi j'ai vu que ça a pris la forme de ce qu'on a appelé des town hall, où est-ce que les gestionnaires qui sont responsables d'employés, qui sont responsables de ressources, sont invités à toutes, plus qu'une fois par semaine, à discuter ouvertement avec le CEO de la compagnie, le président, pour justement poser des questions. Évidemment, le président est accompagné d'experts en différents types d'aspects en lien avec la crise, que ce soit au niveau RH, que ce soit même au niveau des technologies de l'information, que ce soit en gestion de la continuité, pour venir justement créer ce rapprochement-là. Parce que quand un gestionnaire à très haut niveau qui est actif et présent, puis ça se sonde, nous on a sondé cet effet-là, ça a été grandement apprécié par les employés, ça met les employés en confiance que leur bien-être est important, puis que la haute direction trouve ça très important qu'il y ait une communication bidirectionnelle, qui ne soit pas purement informatif, mais qui soit collaboratif dans cette situation-là, qui est très humaine, en sens que c'est l'être humain qui est directement impliqué ou affecté par la crise de la COVID. Ben, si une organisation peut créer cet élément-là, utiliser la haute direction comme étant un vecteur de rapprochement, ça, pour moi, ça influence la culture même de l'entreprise, puis ça amène je vais toujours utiliser un anglicisme, ça utilise un buy-in beaucoup plus fort des employés, où est-ce que, on se dit, à cause de cette proximité, puis les éléments qu'on me communique, ça me met en confiance par rapport à mon employeur fait la bonne chose pour moi, pour que je travaille.
Les entreprises peuvent aussi voir ça comme étant une opportunité de rapprochement. Moi, dans ma propre expérience, là, il y a des gens avec lesquels, dans ma propre entreprise, là, avec lesquels j'aurais jamais travaillé en n'étant pas dans la situation de COVID-19. Puis j'apprends à les connaître, j'apprends à les apprécier. Puis je pense qu'on va ressortir beaucoup plus fort de cette crise-là, étant donné qu'on a développé des liens, qu'on a développé des moyens de travail. La réponse à la COVID-19, elle n'est pas par silo, elle est multidisciplinaire. Donc, on est obligé de travailler avec des gens des autres départements, des autres services, des autres lignes de services, qui font en sorte que vraiment, je vais savoir à qui me référer quand on sera en dehors de la crise, là, pour toutes sortes d'autres aspects, là. Donc, moi, je trouve qu'on peut prendre ça aussi comme... C'est sûr que c'est difficile de voir ça comme une opportunité compte tenu des conséquences qu'on vit actuellement, mais je pense qu'on peut aussi voir ça comme une opportunité.
Je pense qu'il y a juste les gens de continuité qui voient cette crise-là comme étant une opportunité, parce qu'on est un peu, je dirais, chanceux dans cette malchance. On vit un événement avec un taux d'occurrence potentiellement de une fois aux 100 ans. Parce que drôlement, la grippe espagnole date du début des années... autour des années 20. C'est une opportunité... faut vraiment, moi, en tout cas, j'encouragerais les entreprises à le voir comme une opportunité de changer, que ce soit dans la façon dont on traite, qu'on gère nos employés, que ce soit dans la façon dont on par exemple, il y a probablement plusieurs entreprises qui ont fait un changement de cap assez drastique par rapport au télétravail, parce que tu sais, c'est l'ouverture au télétravail dans les plus jeunes entreprises ou dans des entreprises dont la population est plus jeune, c'est souvent beaucoup plus simple à intégrer, c'est plus naturel, c'est plus vendeur. Mais dans des entreprises de grand format qui ont une structure administrative extrêmement complexe, avec des contextes, avec des gestionnaires seniors qui viennent d'un autre temps, ça devient une opportunité justement de leur prouver qu'on peut faire de la business autrement, que ce soit dans la façon dont on opère nos processus. On prend un processus de vente, un processus qui est typiquement de personne à personne. Je sais qu'il a fallu qu'il y ait des entreprises qui se questionnent, tu sais, où ce qu'avant on envoyait un représentant chez la personne, si on parle du domaine d'assurance, de s'adapter pour une entreprise plus traditionnelle. On doit commencer à faire de la prospection via des plateformes de communication de type Facebook, de type, peu importe la nature de l'outil qui est utilisé, mais de faire cette prospection-là d'une toute autre façon, parce qu'on ne peut plus rencontrer les gens, mais on veut continuer à faire de la business. Puis il y a probablement beaucoup de gestionnaires qui étaient réfractaires à ces nouvelles méthodes-là, qui l'ont été depuis plusieurs années, qui étaient carrément des gens qui empêchaient ce changement-là, et que là, étant confrontés à la situation, qui n'ont pas eu le choix. Puis ça, je pense que c'est vraiment une opportunité pour les entreprises de challenger les standards établis, puis de tenter des nouvelles choses, puis de mettre les employés au cœur de ça. parce que ces solutions-là vont venir directement de leur staff et ils doivent leur donner une chance de l'essayer parce qu'il y a des gens, par exemple, qui avaient des concerns disant, ouais, mais les gens en télétravail, on n'est pas capable de s'assurer qu'ils sont efficaces, qu'ils vont vraiment travailler. Excusez, so what? Est-ce que ta personne est, c'est ta responsabilité de mettre en place le système qui va te permettre de pouvoir jauger de la capacité de tes gens, puis encourageons les gens à être efficaces, puis à sortir du cadre normal, puis dire, ben, si la personne est capable de faire en 6 heures ce qu'elle ferait normalement en 7 heures, parce qu'au lieu d'être dérangée à toutes les 5 minutes par des appels ou des collègues qui lui parlent, elle est capable d'être plus efficace en 6 heures. So, de focusser pas juste sur l'employé, mais sur le produit final à l'autre bout, est-ce qu'on est capable quand même de rencontrer nos objectifs d'affaires dans un nouveau contexte? T'sais, voyons ça de manière autrement. Puis ça va driver tout ce qui tourne autour de comment qu'on procède à l'intérieur de nos organisations.
C'est vraiment intéressant, vous écoutez tous les deux. Ça, et c'est le fun aussi d'entendre parler d'aspects peut-être plus positifs. Là, on s'entend que la crise est très, très négative, là, de manière générale, mais d'essayer d'entrevoir certains aspects ou certains volets de manière plus positive. Là, Josiane, vous parliez de connaître encore mieux les collègues ou des équipes avec lesquelles vous travaillez moins. L'aspect de télétravail aussi, là, Guillaume, comme quoi finalement des organisations qui étaient un peu réfractaires à l'idée d'envoyer leurs employés en télétravail, ben, ils n'ont pas eu le choix. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui réalisent peut-être que il y a des avantages à fonctionner comme ça. La question que j'aurais pour vous, ce serait de si on se projette un peu plus loin, là, quand on va revenir par une certaine normalité, je dis bien, là. Qu'est-ce que vous pensez qui va rester finalement au niveau dans les organisations, dans la façon de travailler, ou ça peut être aussi en continuité, dans la façon dont on va s'organiser là, pour être encore plus résilient, mais on a nommé le télétravail. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous auxquelles vous pensez ou que vous prévoyez, là, ou peut-être que vous voyez déjà? Des changements qui vont être un peu plus permanents une fois que la crise, le gros de la crise va être passé.
Guillaume, je te laisserai commenter cette fois-ci.
Ah, bon, ben, c'est sûr qu'on parle beaucoup de l'aspect télétravail, parce que je pense que ça a été au cœur de la, tu sais, pour on s'entend, les entreprises qui ont un très fort rapport technologique là, dans leur écosystème. Je pense, tu sais, si j'essaie de le prendre à plus haut niveau puis de voir globalement les entreprises, moi, je pense que c'est d'un point de vue purement de la continuité, je peux pas croire qu'on va avoir, en tant que, tu sais, des spécialistes de continuité, des experts en continuité dans toutes les organisations, que ce soit des organisations qui desservent des clients ou des gens qui sont directement à l'intérieur de l'organisation. Je pense que enfin, pas qu'on n'était pas pris au sérieux avant, mais l'être humain étant ce qu'il est, tant qu'on n'est pas confronté directement à une situation qui nous met à risque, on a souvent tendance à soit l'ignorer ou soit la minimiser. Fait que, t'sais, d'un point de vue du travail des conseillers en gestion de la continuité, que ce soit en gestion du risque, en gestion de la continuité, même en gestion de la relève technologique à une certaine extension, je pense que les gens vont être beaucoup plus sensibles au sujet qui est la continuité parce que c'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont bien relevées de la crise, il y a des entreprises probablement qui ont trébuché beaucoup à travers le processus, puis je pense qu'il y a des entreprises qui ne s'en relèveront jamais. Malheureusement, c'est sûr que ça fait mal à l'économie, puis ça fait mal à des entreprises. Moi, je pense que les gens qui ont vécu, t'sais, de la crise COVID d'un point de vue professionnel, il y a des éléments sur lesquels ils ne voudront plus bouger. Je pense que c'est beaucoup autour du télétravail. La conciliation famille à la maison, le télétravail, une certaine forme de présence au bureau. Puis ça, il y avait déjà beaucoup, en tout cas, au moins pour notre organisation, il y avait beaucoup d'éléments qu'on regardait déjà. T'sais, dans les grosses organisations, on a souvent beaucoup de bureaux, beaucoup d'espace. De commencer à être plus ouvert par rapport à ça, ça permet de diminuer, par exemple, l'empreinte qu'on a sur nos aménagements. Il y a toute la question, t'sais, ça vient de me popper, il y a toute la question des entreprises carbone neutres. T'sais, l'impact environnemental de la crise COVID, est direct, dans le sens qu'il y a définitivement moins de pollution parce qu'on utilise moins nos véhicules. Pour les entreprises, tu sais, on parle de plus en plus des entreprises vertes qui font des investissements ou qui prennent des positions vertes. Tu sais, la COVID elle-même peut l'après-COVID, c'est qu'on il y a clairement des impacts positifs globaux au niveau de la COVID parce que ben on pollue moins, les gens, s'ils n'ont pas à se déplacer au bureau, vont utiliser moins leur voiture. Il faut voir tout ça à très haut niveau. Mais je pense que si on revient au cœur même de la COVID, c'est vraiment la conciliation télétravail, travail à partir de la maison, ainsi que comment qu'on va. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas retourner au bureau 5 jours semaine. Je pense, pour moi, c'est clair.
Moi, en fait, oui, tout à fait, Guillaume Lajadère, il y a des entreprises, il y a des grandes entreprises qui utilisent beaucoup d'espace, qui vont peut-être revoir la façon dont ils utilisent l'espace, puis réduire leurs coûts, là, notamment de location d'espace. Mais j'irais même pour toutes les entreprises, là, pendant la situation de crise, il y en a qui sont sorties, qui ont transformé. Je pense aux manufacturiers qui faisaient des bâtons de hockey ou bien des équipements de hockey, puis qui maintenant se sont mis à faire des équipements de protection. Même s'ils continuaient pas à faire ça après la crise COVID, toute la réflexion, la façon dont se sont, si vous me permettez l'expression, on revirait de bord pour produire d'autres choses, c'est des apprentissages qui ne seront pas perdus. Donc, ça fait des organisations qui sont plus flexibles, plus adaptables. Plus, ils n'ont pas eu le choix de le faire, ils l'ont fait, ils ont réussi. Donc, ils vont pouvoir bâtir sur ces apprentissages-là. Aussi, il y a des organisations sans nécessairement avoir transformé leurs opérations. Ils se sont dit, c'est ceux qui n'avaient pas nécessairement des fournisseurs multiples, ceux qui faisaient pas nécessairement de la formation croisée pour les postes critiques, ceux qui étaient moins axés sur l'optimisation des processus, ben là, ils n'ont pas eu le choix de le faire. Donc, ces apprentissages-là, toujours, d'avoir des fournisseurs multiples, de faire de la formation croisée, c'est des choses qui vont rester aussi. Puis, encore une fois, je suis la personne qui voit toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est des apprentissages qui vont pouvoir reporter, qui vont pouvoir être utiles hors crise COVID. Donc, moi, c'est ce que je pense là, par rapport à qu'est-ce qui va rester après la crise.
Moi, j'aime beaucoup le point agilité, flexibilité des entreprises, surtout dans le domaine manufacturier. Puis, c'est super intéressant parce que, d'une certaine façon, tous les, on va le dire au niveau entreprise, on a tous un ennemi commun présentement, qui est la COVID. Peu importe le type d'entreprise, puis que des entreprises puissent développer cette flexibilité-là, ça peut leur ouvrir, dans le fond, une nouvelle voie sur, OK, tu sais, on parle souvent de diversification de la production, diversification des affaires. C'est comment que les entreprises peuvent s'adapter au contexte changeant, que ce soit d'un point de vue économique mondial, que ce soit par rapport à une gestion de continuité au niveau suite à une crise comme celle de la COVID. Parce que, tu sais, aujourd'hui, c'est une crise COVID. L'année prochaine, que ce soit global ou au sein d'une organisation, ça peut être un incident de cybersécurité majeur, ça peut être un désastre naturel majeur. On n'est pas à l'abri. Je pense pas que ça serait utopique de penser que une fois que la COVID passée, on va être tranquille pour les 100 prochaines années, que ce soit au niveau global, que ce soit au niveau plus organisationnel. Tu sais, j'essaie de le voir de manière globale. Les risques demeurent les mêmes. Puis il faut que je pense qu'il faut que les entreprises continuent à penser, à avoir toujours cette espèce de, j'aime pas utiliser le mot crainte, mais avoir cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de dire, tu sais, c'est arrivé une fois, on s'en est sorti, ça a bien été ou ça a moins bien été, peu importe, on a appris beaucoup de choses de ça, puis il faut continuer comme à rester dans le même mode de comment qu'on peut continuer à évoluer, puis comment qu'on peut continuer à être flexible, puis s'adapter au contexte changeant pour demain, c'est peut-être une crise financière qu'on va vivre. Évidemment, on est quasiment à l'orée de ça, considérant la situation actuelle, mais c'est de pouvoir appliquer les leçons apprises dans la COVID dans n'importe quel autre contexte auquel les entreprises vont avoir à faire face, que ce soit, par exemple, une crise de ressources humaines. On peut relier ça au niveau RH, mais tu sais, c'est un contexte qui est quand même présent, en tout cas. Je vais parler pour la. Moi, je suis de la ville de Québec, où est-ce que dans certains domaines, il y a un besoin criant de main-d'œuvre. Ben, sais, il faut que tu penses à ça que t'as potentiellement une quantité limitée de main-d'œuvre qualifiée ou spécialisée. Donc, il faut que tu t'assures aussi de développer à l'intérieur même de ton organisation, de pouvoir faire face à tous ces risques, ces événements, ces incidents-là qui vont pouvoir se produire.
Puis moi, je reviens, tu sais, pour l'apprentissage, par rapport à comment les gens ont répondu. Nous, quand on arrive dans une organisation pour faire des interventions, on demande toujours, ben, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? Qu'est-ce que vous avez vécu? Est-ce que vous avez documenté la façon dont vous avez répondu, aux conséquences sur votre entreprise? Tout ça. Puis moi, le message que j'aurais pour, les organisations, c'est de s'assurer, sans que ça devienne trop lourd, mais s'assurer de documenter qu'est-ce qui a été fait pour que plus tard, on puisse apprendre que les autres personnes qui vont venir vous remplacer ou bien que l'apprentissage organisationnel reste dans l'organisation pour que les gens puissent apprendre des bons coups puis des choses qui les opportunités d'amélioration pour le futur pour vraiment être une organisation qui s'adapte facilement au contexte changeant.
Je pense que chacune des entreprises, je veux dire de façon, devrait toutes faire un gros post-mortem après COVID, tu sais, du début jusqu'à la fin, puis garder ça dans les annales de l'entreprise pour pouvoir tout le temps y retourner si possible.
Je dirais même plus parce que là, on parle, t'sais, donc là, on est dans des con on va probablement être en déconfinement, malgré qu'avec les chiffres, moi, je suis à Montréal, là, et les chiffres de Montréal actuellement sont pas super. En tout cas, on va devoir comment ça va se développer, mais on est en déconfinement, mais on parle d'une seconde vague. Donc, même si on ne parle pas de post-COVID complètement, je pense que les organisations devraient analyser parce que depuis mars, on est en mode gestion de crise et continuité pour certains. Ils devraient regarder ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, puis avoir des actions tactiques pour améliorer leur façon de répondre à la situation parce qu'il va y avoir, ben en tout cas, tout le monde le dit, là. J'espère que non, mais il se peut fort bien qu'il y ait une seconde vague à l'automne et comment on pourrait faire pour être plus performant dans la réponse à cette seconde vague-là.
Puis je pense que j'espère que plusieurs entreprises se préparent honnêtement à la deuxième vague. T'es une personne qui, Josiane, qui voit le verre à demi plein. Je suis un pessimiste réaliste. Je vois le verre à demi vide. Tu sais, on va comme tempérer entre les deux. Moi, personnellement, je pense qu'il va y avoir une deuxième vague. Et évidemment, les gens, certains spécialistes avancent que la deuxième vague va être pire que la première. Donc, tu sais, le creux de la vague là qu'on vit présentement, je pense que c'est le bon temps. Les gens pensent tout. Il y a peut-être des organisations à tort qui voient la réintégration du lieu de travail comme on approche de la fin, mais la réalité, c'est qu'on vient juste de finir le premier round avec la COVID. Puis on ne sait pas combien de rounds qu'il va y avoir ce combat-là tant que les avancées médicales ne seront pas assez prédominantes pour qu'on puisse avoir soit un vaccin, soit une manière de guérir systématiquement ce virus-là. Donc, il va toujours, je pense qu'il va y avoir beaucoup en anglais, on dirait du back and forth, dans le sens que on va flexibiliser certains éléments, mais il va falloir qu'on recule. Puis le but, c'est de pas refaire exactement ce qu'on a fait, même si ça a été bon. Il faut qu'on devienne de plus en plus efficace et rapide dans la gestion de qu'est-ce qui va se produire avec la COVID, parce que là, il faut pas s'asseoir sur ses lauriers, puis c'est-à-dire job's done, on laisse ça aller, puis on continue comme on fait là. Je pense qu'il faut vraiment que les entreprises restent sur le qui-vive et s'assurent que les gens qui sont des répondants de première ligne, appelons-les les gens du comité de gestion de crise, aient ce creux de vague-là, parce que moi, j'ai été directement au cœur de la gestion pour notre organisation. Ça a été un 2 mois, parce que nous, présentement, on n'est plus en mode gestion de crise. On est en mode, j'aime prendre l'analogie, le patient est rendu à l'hôpital. Il est sous observation, il est connecté, il est en vie. Donc, on tombe dans un autre mode de gestion où ce que là, on prend un peu plus de temps pour prendre des décisions, faire des actions stratégiques pour l'organisation. Dire, ben, l'ambulance n'est pas ramassée dans le garage là, parce qu'on sait que il peut y arriver d'autres situations qui vont devoir nous mettre en action directement, mais il faut faire attention aux répondants de première ligne dans les organisations pour s'assurer qu'il y ait le moment de respirer. Peut-être prendre une petite semaine de plus relax pour se préparer à ce qui va s'en venir, puis ça va à tous les niveaux que ce soit en préparation organisationnelle, que ce soit en préparation dans les équipes, que ce soit dans la préparation même de nos employés, le plus l'employeur est présent et sans dire directif, mais chapeau de ses employés sur la façon qu'il veut que ça se passe dans l'établissement, le mieux ça va aller si jamais on vit cette deuxième vague.
Oui. Moi, je me plais à dire que je suis une optimiste, mais il y a 2 semaines, j'ai écouté un podcast du New York Times. Il faisait référence à ce qu'on va vivre pendant les prochains mois, voire années, comme étant le hammer and dance. Hammer, qui est les mesures plus restrictives de confinement, puis dance, mais c'est quand on sort, on nous permet de sortir un peu. Puis, ils m'ont un peu découragé parce que c'est un des reporters qui était spécialisé là, par rapport aux pandémies puis aux épidémies. Puis quand même, le New York Times, c'est quand même un journal très respecté, là. Puis ils ont dit, les gens qui sont très, très optimistes là, par rapport parce qu'on sortira pas de cette hammer and dance-là là, tant qu'il n'y aura pas un vaccin ou un médicament qui va être valable et distribué. Parce que la distribution du vaccin, l'administration du vaccin aux populations, c'est un autre dossier, là. C'est pas tout de l'avoir, faut le distribuer ensuite. Il disait que ça pouvait durer juste très longtemps. Lui, il a avancé, il dit le plus rapidement qu'on a développé un vaccin de A à Z dans les années passées, il disait que c'est 4 ans. Je dis, ah non, c'est pas vrai, là, pas 4 ans, là. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent de 2022 là, pour ça. T'sais, c'est sûr qu'on pourrait partir en conjecture. Il y a des avancées qui se font, il y a des protocoles qui sont, comment dirais-je, un petit peu tronqué là pour rendre les choses plus rapides, mais oui, tu sais, je suis optimiste, mais je suis quand même réaliste. Puis cette hammer and dance là dont le New York Times fait référence là, ça va durer plusieurs mois, donc il faut vraiment que les organisations soient prêtes à ça.
Puis il y a beaucoup d'incertitudes, puis c'est toute une incertitude qui tourne autour même de la COVID. Fait que n'ayant pas ces informations-là, je pense que c'est vraiment important qu'on voit le long terme dans comment que cette crise-là va se dérouler. Parce que il y a vraiment il y a tellement d'inconnus, puis même en date d'aujourd'hui, la COVID, ça a commencé à se parler à la fin décembre avec la situation en Chine. Puis même aujourd'hui, on est pratiquement, on va tomber sur le 5e mois. Il y a des éléments de base qu'on s'attendait, en tout cas moi, pour ma propre personne, que je m'attendais qui puisse être beaucoup plus précisé, que ce soit la période de contagion, la période de survie du virus sur les surfaces, vraiment le onset des symptômes, tous ces éléments-là que s'ils étaient déjà en maîtrise aujourd'hui, ça aiderait tout le monde, même si un mois plus tard, on n'a pas encore ces informations-là, qui sont des éléments de recherche qui, moi, j'avais une attente qui soit fait. Tu sais, c'est beaucoup d'incertitudes parce que si on n'a pas réussi à atteindre ces éléments-là, puis évidemment, je ne suis absolument pas un spécialiste pharmaceutique, j'ai l'impression que peut-être que le vaccin va tarder justement parce qu'on ne comprend peut-être pas entièrement bien le virus d'un point de vue, tu sais, comment qu'on peut le gérer. C'est correct que les efforts soient mis entièrement d'un point de vue génétique à le décortiquer. Non? Mais je pense que c'est très safe de voir le potentiel très long terme, en année même, jusqu'en 2022, que ce spectre-là sera toujours autour de nous.
Écoutez, c'est absolument passionnant de vous écouter depuis tout à l'heure. Je pense qu'on n'aurait pas pu trouver 2 meilleurs invités pour notre première balado. On a appris beaucoup de choses et je pense qu'on a aussi réussi à mettre la lumière sur plusieurs éléments positifs, là, parce que je pense que c'est pas facile pour tout le monde présentement, là, la crise de la COVID-19. Et puis, je pense que dans le milieu de la continuité, on a plusieurs membres Co-Québec et autres personnes qui travaillent dans la continuité qui sont vraiment très, très occupées là, par cette crise-là. Mais de regarder ça d'un angle un peu plus positif, même si on se dit que ça va être quelque chose qui va durer un certain temps et qu'il faut finalement, en autre mot, apprendre à vivre un peu avec la COVID-19 là, pour un moyen terme. Je pense quand même qu'on a réussi à soulever des éléments pas mal intéressants. Alors, Guillaume Laberge et Josiane Simon, merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Et je vous dit que peut-être qu'on va se reparler pour une autre balado-diffusion. Écoutez, c'était tellement intéressant. On va regarder ça de notre côté à Reco-Québec, mais je pense que ce ne sera pas notre dernière balado-diffusion. Alors, merci beaucoup à vous deux.
Merci,
Merci à vous.
ça fait plaisir.
Oui.